Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Et c'est le petit déjeuner politique d'Éric Coquerel qui a député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Oui, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Qu'est-ce qui n'a pas marché donc à la France Insoumise pour réaliser un meilleur score dimanche ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, constatons que dans toute l'Europe, toute notre famille politique a subi un revers dans ces élections. Donc ça veut dire quelque chose très clairement d'une période qui nous est en ce moment pas favorable, qui est plus favorable, j'allais dire, malheureusement, aux forces nationalistes, xénophobes, je veux dire fascistes, pour aller vite, même si c'est...
Ouais, c'est un peu... Bon. Tous les électeurs qui ont voté pour...
Non, c'est pas ce que je dis.
Ouais.
Mais vous savez, tous les électeurs qui ont voté à certains moments dans les années 30 pour des partis d'extrême droite n'étaient pas forcément au départ d'extrême droite. Mais laissons ça. Je caractérise globalement ce qui se passe en Europe. Et bon, voilà, on est dans une période, à mon avis, de régression dont il va falloir tenir compte. La deuxième chose qui est plus liée aux européennes, parce que depuis que je les connais, on vit à peu près la même chose pour notre famille politique, c'est une élection en réalité qui est très dure pour nous, pour deux raisons. D'abord parce que notre électorat populaire, celui qui a été le socle au départ de ce qui a permis à Jean-Luc Mélenchon après de fédérer plus d'électeurs pour la présidentielle, s'abstient considérablement. Tous les éléments le montrent, c'est-à-dire que c'est celui qui s'abstient le plus, pour des raisons très claires, c'est que nous essayons d'avoir un discours honnête. Donc nous disons, on se présente au Parlement européen pour mettre des députés de combat, pour amorcer, la pompe, mais en même temps, c'est pas le Parlement qui décide de tout, c'est pas vrai, c'est pas la réalité.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, quand vous entendez des discours qui est, je le conçois, qui est plus simple que quand quelqu'un vous dit « Votez pour nous, pour le Parlement européen, on va tout changer », c'est pas vrai, mais c'est plus simple, eh bien, nos électeurs qui sont déjà critiques à raison vis-à-vis de cette Union européenne-là, s'abstiennent plus. Bon. Et en même temps, les électeurs de classe, on va dire intermédiaire, moyenne, j'aime pas trop ce terme, enfin vous voyez à peu près ce que je veux dire, nous avions réussi à regrouper par l'élan de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, eh bien, quand il entend parler de climat, il a quand même si nous estimons être un parti, nous sommes un parti écologiste, qui remettons en question l'économie de marché, etc., il a au bout d'un moment tendance à davantage voter pour le parti qui, depuis 40 ans, s'inscrit sur la question de l'écologie. Bon, voilà, je pense qu'on a donc été siphonné d'un côté dans les derniers jours de campagne par une partie de jeunes, notamment, qui sont partis sur Europe Écologie.
Ouais.
Bon. Et puis, d'un autre côté, bah, notre électorat nous a fait défaut. Et très franchement, ma circonscription le montre. Moi, j'ai une circonscription populaire.
Vous êtes en Seine-Saint-Denis.
Voilà, ouais. Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Épinay. Bon, une partie, notamment de Saint-Ouen, devient progressivement un peu voilà une population évoluée comme celle d'un arrondissement parisien. Bon, eh bien,
parce que
cette partie-là a beaucoup voté Europe Écologie et ailleurs, malgré tout, peut-être en partie avec le travail que je fournis et autres, mais des quartiers populaires sont quand même venus voter suffisamment pour que je puisse faire 13,5% dans ma circonscription. Ouais. Donc voilà, ça montre bien quel a été notre problème majeur.
Majeur. Oui, Éric Coquerel, Clémentine Autain dit « C'est la ligne politique de la France insoumise qui est en cause, qu'il faut revoir ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Clémentine?
Je ne suis pas d'accord avec Clémentine. Bon, on peut dire, chacun
quelle ligne politique, alors?
Parce que, si vous voulez... certains, dont Clémentine, disent en gros la ligne a été trop populiste, trop dégagiste, pour aller vite.
Ouais.
Et puis d'autres disent la ligne n'a pas été assez populiste et assez dégagiste. Alors, vous voyez, quand vous entendez ça, c'est que, en général, vous étiez peut-être
sur une ligne populiste.
Bah, ça veut dire.
Non, mais pour la
ça
France insoumise.
Ça veut dire que certains nous disent ah, tiens, vous avez trop parlé de l'ombre gauche, qui n'a pas été vrai du tout. D'autres nous disent vous êtes trop latéralisé, vous avez trop mis l'attention sur, par exemple, des députés venant du Parti Socialiste, et on en était contents de l'aile gauche, communiste et autres. Bon, moi, je crois que non. Je crois que notre liste a reflété en réalité exactement ce que nous voulons, c'est-à-dire une liste très citoyenne, à commencer par Manon Aubry, qui n'était pas de France Insoumise, qui vient du milieu associatif, qui a fait une excellente campagne. Bon, il y a plein d'autres gens, qui sont y compris élus des syndicalistes. Et puis, on a toujours dit qu'on souhaitait que les mouvements politiques, les sensibilités, soutiennent cette démarche. C'est ce qui s'est passé avec le courant de d'Emmanuel Morel, c'est ce qui s'est passé avec des communistes qui sont venus. Donc moi, je ne crois pas
donc,
à tout ça. Je ne crois pas que ça soit ça.
Alors, il faut redéfinir peut-être une ligne, alors.
Mais
plus
la
clair,
ligne, elle
quoi.
Existe. Mais la ligne existe. Non, mais... On l'a même donnée. On a toujours pensé qu'il fallait qu'on essaye toujours de fédérer au plus large, justement, ce qu'on a le peuple face à l'oligarchie, parce que c'est vrai qu'on est dans un moment où il y a de moins en moins de riches, mais ils s'engraissent de plus en plus au détriment d'une population qui, par son travail, leur permet de le faire. Ouais. Donc, il faut s'engraisser, il faut faire en sorte de fédérer le peuple sur, j'allais dire, la question du partage des richesses, de la planification écologique, et non pas, comme le fait Madame Le Pen, de la peur de l'immigré, de la peur d'une religion, etc.
Mais est-ce que vous Éric Coquerel, il faut poser aussi toutes les questions sur la table. Est-ce que cette question de l'immigration, des frontières, vous ne la posez pas suffisamment et elle n'est pas assez claire pour vos électeurs?
C'est pas un problème. Aujourd'hui en France, c'est pas le problème majeur. Ça devient un problème, pourquoi? Parce que, vous savez que depuis 2015, il y a eu une grande arrivée à un moment donné du fait des guerres en Syrie, dans lesquelles nous avons une large responsabilité. Depuis, si on regarde en réalité les chiffres, ça diminue, d'accord? Bon, le vrai problème que nous avons, c'est un problème de gestion au niveau de l'Europe, justement, des arrivées de migrants et le fait qu'on laisse certains pays se dépatouiller avec cette question, et l'autre, le fait qu'on ne met pas de moyens aujourd'hui pour gérer cette question qui est encore gérable. Peut-être qu'un jour, si la crise climatique, si le libre-échange qui continue à ruiner des économies du Sud continue à se développer, peut-être qu'un jour, ces mouvements de population ne le deviendront plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça aux Français. Par contre, ce qui n'est pas gérable, c'est que quand, par exemple, sur Paris, vous n'avez pas un seul centre d'accueil digne de ce nom, d'accord, que toutes les autres grandes capitales ont, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les migrants et les réfugiés qui sont à la rue, dehors, vous avez la Porte de la Chapelle, dans ma circonscription, plus que quelques associations de citoyens qui s'en occupent, et les gens, là, ont l'impression que, c'est le chaos, mais c'est plutôt la manière dont nous gérons. Et Madame Le Pen utilise tout ça, d'accord, avec une peur, parce que vous remarquerez qu'elle a fait d'excellents résultats dans des endroits où il n'y a pas, ni immigrants, ni réfugiés.
Non, mais c'est l'angoisse, c'est ce que vous dites.
Ouais, et elle utilise ça pour, faire passer des idées nauséabondes, associé avec un vocabulaire qu'elle nous prend par ailleurs sur la question sociale. Ça, c'est vrai.
Bah oui.
Bon, mais en même temps, il faut le rappeler, le Front National, il est contre l'augmentation des salaires, il est pour l'austérité, il est pour que les gens travaillent plus.
Est-ce que vous n'avez pas été victime au sein de votre parti aussi, et du coup, par ricochet auprès des électeurs, d'un état d'esprit peut-être trop polémique, trop clivant au sein de votre parti, non?
Je vais vous dire, on a été victime parce que depuis des mois, on concentre les attaques à la fois du camp au pouvoir et à la fois du Rassemblement National, notamment avec cette espèce de coup monté avec Monsieur Cotarac il y a quelques jours. Donc,
de votre parti au Rassemblement National.
Quand je dis un coup monté, c'est que quand vous avez quelqu'un qui cache à tous ses amis, sa famille, qu'en réalité il est passé dans le camp d'en face et que les médias depuis des semaines préparent sa venue, ça veut dire que tout ça n'était pas une réaction spontanée de quelqu'un. Bon. Ça veut dire, ça de côté. Moi, ce qui me pose problème, c'est que nous avons subi des attaques extrêmement fortes. Et à certains moments, je trouve que notre camp, au sens général, ceux qui sont attachés à la question de la démocratie, des libertés, n'a pas réagi comme il le fallait. Quand on vit des perquisitions comme nous l'avons fait, c'est-à-dire traité comme un groupe terroriste, d'accord, avec 100 policiers au matin qui débarquent un peu partout pour des picadilles qui n'existent même pas, mais même le prétexte était des picadilles. Bon, à partir de là, nous attendions à ce qu'on soit défendu, d'accord. Comme par exemple, confrères l'ont été de Mediapart. On a regardé uniquement les réactions suscitées par ça et on nous a tapé dessus. Je trouve que là, il n'y a pas eu de solidarité.
Et Jean-Luc Mélenchon, peut-être dans sa virulence, dans ses propos, il a pu heurter, choquer certains.
Je vais vous dire une chose. Hein. Oui. Les gens qui continuent à voter pour nous, qui se déplacent dans les quartiers populaires et qui seront notre socle de reconquête, ça j'en suis certain, ils se disent pas ça. Ils se disent, tiens, ils se battent, ils combattent, ils se laissent pas impressionner par le système. Bon, il y a effectivement des gens...
Il y a pas de remise en cause du chef chez vous? De Jean-Luc Mélenchon.
Mais d'abord, le chef.
Éric Coquerel, chez les Républicains, par exemple, il y a eu une défaite. Bon, bah, on se pose la question, pas tous. Laurent Wauquiez ne veut pas. Chez vous, il y a une défaite. Oui. Est-ce qu'il faut se poser la question?
Jean-Luc Mélenchon. La petite différence avec les Républicains, c'est que c'est une famille politique qui s'inscrit de longue date dans la vie politique française, qui était à un niveau quand même de score à deux chiffres en général, il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un qui pouvait être président de la République, et qui aujourd'hui est affaibli au fur et à mesure, se fait aspirer par En Marche, et par le Front National d'un autre côté.
Oui, mais vous avez eu deux chiffres aussi.
Nous, on est un nouveau mouvement. On fait, par exemple, là, nous aurons six fois plus de députés que nous avions lors du dernier mandat. Nous avons, certes, là, il y a un accident, c'est clair. J'espère que ça va être un accident. Il faut qu'on prenne en compte certains éléments, justement, pour de rebâtir. C'est pour ça qu'on propose une fédération populaire qui permettent à partir d'une implication citoyenne justement à tous ceux qui veulent soutenir de reconstruire. Et ça peut commencer par pour les municipales, mais je me souviens qu'il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon a eu 19% des voix. Bah et en 2 ans, bah Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas changé, il n'a pas modifié. Il est même un excellent président de groupe à l'Assemblée nationale, tout le monde le convient.
Bon, donc, d'opposition. Y a pas de remise en cause du chef.
Non, je crois que il faut qu'on regarde ce qui nous est arrivé. Oui. Bon, ça c'est ce qu'on est en train de faire, hein, pour tout vous le dire. Là, je réagis à chaud.
Bien sûr.
Il y a des analyses. Il y a certainement, il peut y avoir des choses à corriger. Oui. Enfin, je veux dire, chaque mouvement, notamment un mouvement jeune comme le nôtre, qui invente une nouvelle forme d'organisation politique, a besoin de le faire. Et on le fait, on apprend à marcher en marchant, en gros. Oui. C'est ce que j'allais dire. Mais je ne crois pas que ça soit la question qui se pose. La question qui se pose, c'est comment on rebâtit à partir de notre socle, et notamment notre socle, ce sont les quartiers populaires. Moi, je le pense. C'est là-dessus qu'on doit prioriser. Ça, à mon avis, c'est ça qui est essentiel.
Et ce que vous avez dit au début de l'interview, j'ai bien noté, Éric Coquerel, sont les abstentionnistes aussi qu'il faut aller chercher. Et les Gilets jaunes, par exemple, en font partie ou pas?
Oui,
parce qu'il y a 23 millions de...
Très certainement, très certainement. Bon, les Gilets jaunes en font partie, on voit qu'il y a un mouvement qui continue à exister, qui n'est plus aussi massif qu'il l'a été au début, qui continue à exister, qui, au fur et à mesure, quand même, a des contenus proches du nous, mais qui, pour la même raison, ne s'est pas déplacé, à mon avis, au niveau des élections, parce que, pour se déplacer, il faut vraiment qu'il estime qu'il y a une nécessité. Alors, ceux qui quelque part, rejettent le système, et j'allais dire, avec la variante Front National. Bon, bah là, il y avait un objectif, parce que M. Macron n'a pas arrêté de dire « c'est un objectif, je veux être devant eux ». Quelque part, il a suscité la surmobilisation de l'électorat du Rassemblement National. Nous, notre électorat populaire n'a pas estimé que c'était suffisamment nécessaire de le faire. Ouais. Voilà, je pense que c'est une des grandes explications.
Donc oui, vous n'avez pas su effectivement capter un peu ces Gilets jaunes, ce mouvement, pas assez. Mais contrairement donc au Rassemblement National, visiblement...
C'est pas que le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement en général de tous ceux qui souffrent du système. Je dis ça parce que, par exemple, dans le 93, où on a 5 députés, Seine-Saint-Denis, le mouvement des Gilets jaunes n'a jamais été massif comme il a pu être dans d'autres ans. Mais on n'a pas su, on n'a pas pu. Et quand on y est arrivé, bah on sauve les meubles, comme dans ma circonscription. C'est vrai qu'on n'a pas su montrer que cette élection européenne, l'enjeu était tel qu'il fallait se déplacer, venir voter pour nous. Bon, voilà. Maintenant, c'est toujours une élection qui est
rapidement, il y a aussi une irresponsabilité de la part de l'ensemble de la gauche, avec toutes ces candidatures, Benoît Hamon, Yann Brossat. Benoît Hamon tire sa révérence, qu'est-ce que vous lui dites?
Oh, à mon avis, il ne la tirera pas longtemps. Mais écoutez, je ne sais pas. Ils ont quand même un score un peu plus de 3%. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire.
Ça fait 2, plus 2, plus 3, plus 3.
Moi, je crois une chose. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu 19% des voix à la présidentielle, il y avait une occasion pour toutes ces forces politiques de se dire « Bon, bah, il s'est passé quelque chose. » C'est peut-être lui et ses amis qui avaient raison. Dans l'idée, non pas de reconstruire sur un cartel, mais à partir d'un mouvement citoyen. Donc, allons l'aider. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu se compter aux Européens.
Tendez la main, en fait, aux uns aux autres, justement.
Tous ceux qui veulent participer à ce que nous, on appelle une fédération populaire, sont les bienvenus.
Une fédération populaire,
pas de la grande gauche, parce que à partir de là, on va repartir sur les étiquettes. Qu'est-ce qu'on met à gauche? Enfin, vous voyez bien la question. Donc nous, on préfère partir du contenu, d'accord? Parce que expliquer qu'on met ça sur la table et que tous ceux qui veulent quelque part appuyer un projet, qui soit un projet émancipateur, qui soit un projet de transformation sociale, écologique, qui pose la question de la 6e République, eh bien, sont les bienvenus pour pousser comme nous là-dessus. Mais à partir du moment où on ne construit pas un espèce de cartel qui répond pas aujourd'hui aux exigences.
Éric Coquerel, le mot de la fin avec Cécile de Ménipus.
Oui, en France et en Allemagne, l'écologie crée la surprise européenne. Pour être un bon écolo, est-ce qu'il faut être forcément de gauche?
En tout cas, pour être un écologiste conséquent, il ne faut pas adhérer à l'économie de marché, je vous le dis très clairement. Parce que l'économie de marché, c'est une économie qui, de facto, systémique, regarde à court terme. Or là, on a besoin de regarder à moyen et à long terme, sans avoir la question des profits toujours en tête, mais la question de l'intérêt général. Donc voilà, je réponds comme ça. Ça doit être une économie qui accepte à un moment donné que l'État joue un rôle majeur, que l'intérêt général joue un rôle majeur, et ça ne peut pas être une économie du tout marché. Ça, c'est impossible.
Mais c'est un effet de mode, non, écologie?
Non, je crois pas. Non, je suis de ce point de vue-là satisfait qu'il y ait quand même plein de jeunes qui étaient votés. J'aurais préféré qu'ils prennent notre bulletin, parce que je pense que notre bulletin est plus conséquent. On va le voir notamment avec les alliances d'Europe Écologie, peut-être au Parlement européen, peut-être avec des gens proches de Monsieur Macron. Non, pour l'instant, ils envisagent plutôt ça. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais je trouve que c'est satisfaisant que des gens aillent voter sur la question du climat, parce que c'est la question centrale. Toutes les autres questions sont sujettées au fait qu'on puisse continuer à respirer sur cette terre.
Et vous avez un invité surprise, bien sûr.
Oui, bonjour Eric, c'est François Hollande. Je suis tout cœur avec toi, car moi aussi j'ai connu dans ma vie la gueule de bois des lendemains qui déchantent. avoir quitté les socialistes pour faire le même score, ça c'est de la solidarité, mais toutefois sans être complotiste, ne penses-tu pas que votre débâcle est dû à un coup du grand capital Leroy Merlin, dont la pâte à fixe de la mauvaise qualité a décollé la banderole de la France Insoumise le soir des résultats, non ? Tu as vu la...
Ah non, j'ai pas vu, non.
T'as pas vu la banderole qui s'est décrochée ?
Il y a une banderole qui s'est décrochée. Oui,
non, non, moi j'utilise de la colle, ça colle super bien.
Donc c'était pas de la pâte à fixe.
Que je colle, je colle des affiches.
D'accord, ok. Voilà.
Ah bah ça fait du bien de parler bricolage le matin.
Voilà, c'est bien, ouais.
François Hollande, c'est la nouvelle boîte à outils de la France Insoumise.
Voilà, absolument.
Ah bah moi, je me suis mis au vert. Hein, du coup,
on va prendre la boîte à outils. Pas de problème.
Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invité ce matin de Sud Radio.
Et Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve à 8h20 sur le Grand Matin Sud Radio. Merci d'être avec nous. Il est 7h56.